Interview.
'Cause j'aime bien les animaux. Oh, j'aime surtout bien les vaches. 'Cause j'aime bien les animaux, j'aime surtout bien les vaches. J'ai pas d'asthme et puis j'ai pas d'allergie.
De nombreuses études ont montré que les enfants qui ont grandi dans une ferme ont beaucoup moins de risques d'avoir des allergies ou de l'asthme.
Nous avons examiné tous les facteurs qui pouvaient expliquer l'effet de la ferme. Finalement, ce qui compte, c'est le séjour dans l'étable et la consommation des produits au lait cru.
L'environnement de la ferme, c'est comme une soupe de microbes. C'est la diversité rencontrée par le système immunitaire qui prime. Il y a un lien direct entre système immunitaire et microbiote. Pas de microbiote, pas de système immunitaire.
Dans notre intestin, il y a 100 000 milliards de microbes. Pour le corps humain, les microbes sont vraiment des partenaires. Nous avons besoin d'être en contact avec eux, sinon nous risquons de développer des maladies inflammatoires.
On peut dire que trop d'hygiène tue l'hygiène.
À la fin des années 70, on était autour de 5% de la population qui était concernée par au moins une maladie allergique. Et aujourd'hui, on estime que c'est 30 à 40% de la population.
L'occidentalisation des modes de vie, les aliments transformés, la surconsommation d'antibiotiques, le manque de contact avec la nature, tout cela appauvrit notre microbiote et augmente le nombre de maladies immunitaires.
Le grand message, c'est la biodiversité compte. Et c'est cette biodiversité qui donne la protection.
Marie-Monique Robin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour les Rencontres de l'écologie pour présenter Vive les microbes, votre dernier film documentaire. Vous êtes peut-être avant tout aussi dans ces rencontres pour découvrir quoi ?
Je ne viens pas découvrir, parce que c'est des sujets que je connais depuis très longtemps, mais moi, je suis toujours très heureuse de venir ici, parce que c'est un endroit où on peut échanger, où on peut se sentir moins seul dans, en ce moment, où c'est particulièrement difficile d'un point de vue politique, national, international. Donc, c'est un lieu où on peut se tenir chaud. Et ça, c'est très important. Et pour moi, bon, qui suis réalisatrice, écrivaine, c'est important aussi de montrer mes travaux, de donner les arguments aux citoyens et citoyennes qui ont besoin de convaincre de nouvelles personnes que l'écologie, c'est la clé pour le futur. Quoi. Voilà.
Je reviens sur cette question. Donc ici, c'est un peu, en quelque sorte, un bol d'air pour vous. Et face, au-delà de ce territoire, il y a peut-être aussi une confrontation de plus en plus accrue contre l'idée de l'écologie de la part de populations, de décideurs, de politiciens. Quel est votre constat et votre sentiment là-dessus ?
Moi, je pense qu'on a toutes les raisons aujourd'hui d'être déprimés. Hein. Faut pas avoir peur de le dire. Hein. Parce que nous, alors depuis des décennies, on est quelques-uns à tirer la sonnette d'alarme en disant attention, nous sommes confrontés, les humains et tout le monde du vivant en général, hein, à des défis absolument énormes. Le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, les pollutions sous toutes leurs formes, les maladies chroniques qui frappent toutes nos familles, enfin, etc. Les inégalités sociales qui font qu'il y a des riches de plus en plus riches, etc. Tout ça fait que on s'est battu et on avait obtenu des victoires quand même. Et là, on voit comment on est en train de faire marche arrière, quoi, hein. Et très clairement, quoi. Et moi, en disant ces mots, je risque d'être taxé de d'éco-terroriste, hein, pour reprendre le mot de Monsieur Darmanin, notre ex-ministre de l'Intérieur, actuel ministre de la Justice. Et on voit bien en ce moment toutes ces propositions absolument invraisemblables, quoi, comme celle de Monsieur Laurent Duplomb récemment, qui a proposé de supprimer l'agence bio et qui a été applaudi par la ministre de l'Agriculture. Et bon, finalement, ils sont revenus sur cette proposition, mais en même temps, ils ont autorisé deux insecticides néonicotinoïdes, tueurs d'abeilles, interdits en Europe. Et voilà, quoi, vous voyez, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, c'est terrible ce qui leur arrive. Quoi. Leurs agents sont menacés, leurs locaux brûlés, tout ça dans la plus grande impunité. Et donc, c'est très inquiétant. Quoi. On est dans une phase de régression, alors que face à ce défi que j'ai décrit avant, bah, l'écologie, c'est la seule réponse, c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre.
Et il y a aussi ce cas des quatre activistes écologistes en Angleterre qui ont été condamnés à 4 ans de prison hier. Donc il y a vraiment une montée en puissance. Et qu'est-ce qui vous laisse, qu'est-ce que vous ressentez ou qu'est-ce qui vous fait penser de cette réaction, de cette intensité à l'encontre de ce mouvement ? Est-ce qu'il y a une peur ? Est-ce qu'il y a une fragilité peut-être aussi qui commence à s'afficher au niveau des dominants et de ce capitalisme ?
Non, mais là, c'est clairement le vieux monde qui est en train de s'accrocher à ses privilèges. Ça, pour moi, c'est très clair. Il y a une minorité très puissante, très riche. On parle des 1% qui sont les plus riches de la planète, hein, qui possèdent autant que plus de la moitié de l'humanité dont la fortune ne cesse d'augmenter en raison justement du système capitaliste dont vous venez de parler. Et eux, bah, ils sont là pour faire en sorte que rien ne bouge. Et tous ceux qui essaient d'ouvrir les yeux en disant attention, c'est très grave ce qui est en train de se passer, enfin, pour l'humanité, pour la survie de l'humanité. Pas de la planète, hein, parce qu'il faut arrêter de dire qu'il faut sauver la planète. La planète, quand on ne sera plus là... elle sera encore. Donc il y a clairement une offensive très très forte de ceux qui veulent maintenir le statu quo parce qu'ils en profitent. Ils en profitent à court terme, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que même ces très riches dont je parle, quand le climat sera vraiment déréglé, qu'on aura du mal à produire des aliments partout dans le monde parce qu'il y aura trop d'aléas climatiques, quand la biodiversité aura disparu, ils seront logés à la même enseigne que les autres, même s'ils sont impactés plus tard. Ils ne pourront pas continuer à vivre comme ils vivent en ce moment. Donc, je veux dire, c'est vraiment de la courte vue, quoi. Vous voyez ?
Vive le microbe. Ah, je reprends. Vive le microbe est le titre de votre dernier film et peut-être ouvrage également.
Non, mais il est déjà là, le livre. Je vais le signer là tout à l'heure.
D'accord. Et pour vous, c'est aussi la source de vie, le microbe. On en est aussi constitué également. Nous sommes et la nature elle-même. Qu'est-ce que c'est, vivre les microbes pour vous ? C'est par rapport à contre quoi ?
La vie du microbe, c'est donc un film et un livre qui sont la suite d'un autre film et livre qui s'appelait La fabrique des pandémies, que j'ai passé ici, que j'ai présenté ici. Dans La fabrique des pandémies, on découvrait comment la destruction de la biodiversité dans les zones tropicales, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, contribuait à l'émergence de nouvelles maladies infectieuses. Et là, aujourd'hui, dans le nouveau film et livre, on découvre que quand il n'y a plus de biodiversité dans nos milieux de vie, eh bien, nos enfants ont des microbiotes intestinaux très pauvres et un système immunitaire très fragile, qui fait qu'ils développent de plus en plus de maladies d'origine inflammatoire, comme l'asthme, les allergies, la maladie de Crohn, y compris l'obésité. Donc, à force d'aseptiser les milieux de vie, de bétoniser, de manger des aliments qui sont totalement aseptisés, de ne plus être en contact avec la nature, les animaux, les arbres, les fleurs, eh bien, on a donc des microbiotes intestinaux qui sont très fragilisés. Et c'est l'explication, c'est ce qu'expliquent les scientifiques dans mon film et dans mon livre, de l'explosion de l'asthme et des allergies. Je rappelle qu'il y a 50 ans, moins de 5% de la population souffrait de ces pathologies. Aujourd'hui, c'est 35%. Et la seule raison, c'est ce que je viens de décrire. C'est la destruction des microbes dans nos milieux de vie. Bon, il y a aussi la surconsommation d'antibiotiques. Enfin, toute une série de raisons qui font que l'hyperhygiénisme, tout ça, vous voyez, qui font que donc il y a cette épidémie de maladies chroniques. En revanche, ça c'est la bonne nouvelle, on voit comment les enfants qui sont nés dans les fermes traditionnelles, où les vaches mangent de l'herbe, du foin, qui sont en contact avec les animaux de la ferme, où il y a des arbres, beaucoup de végétation, etc., eh bien, c'est très, très impressionnant. Ils n'ont pas d'asthme ni d'allergie. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait ce qu'il faut faire.
Cet intérêt pour cette nature et vous traitez principalement de nocivité, de produits nocifs ou de matières qui vont à l'encontre, notamment issues peut-être de l'industrie également.
La destruction de la biodiversité, elle est due à plein de causes. Hein. Donc, je l'ai dit, l'hypergénisme, l'aseptisation, et la disparition des microbes, des bactéries, etc., qui sont très importantes pour le fonctionnement de notre organisme. Hein. Notre intestin contient 1000 milliards de bactéries et on en a besoin pour plein de raisons, pour toute la santé. On en a besoin pour digérer, on en a besoin pour même créer l'hormone du bonheur. C'est les bactéries de l'intestin qui créent ça. Les produits chimiques qu'on déverse dans les champs et qu'on retrouve sur les aliments, évidemment, ça contribue à la disparition des microbes dans l'intestin de nos enfants. Et ça, c'est pas du tout une bonne chose, c'est clair. Tous ces produits chimiques utilisés par l'agriculture industrielle que j'ai beaucoup dénoncé dans mes films et livres précédents, eh bien, évidemment, font partie aussi de ce grand puzzle qui explique pourquoi dans toutes les familles aujourd'hui, il y a des enfants qui sont allergiques au pollen, aux acariens, ou qui ont de l'asthme, ou qui ont la maladie de Crohn, ou qui ont du diabète, ou qui sont obèses, parce qu'on découvre dans mon film aussi que l'obésité, l'une des causes, c'est ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un intestin pauvre, et depuis la petite enfance.
Vous avez traité un peu ces aspects de ces phénomènes qui vont à l'encontre de la santé. Et pour vous, qu'est-ce qui vous a déclenché cette envie de vous informer, de partager ces informations ?
Alors, moi, j'ai fait 200 films. Donc moi, mon métier, je suis journaliste. À l'origine, ça fait 40 ans que je fais ce métier. D'ailleurs, je viens de créer une chaîne YouTube libre d'accès où on peut voir tous les films que j'ai commencé à faire en 1986. Donc, vous voyez. Voilà. Et bien sûr, bon, moi, les droits humains, c'est mon sujet de prédilection. Donc, l'environnement est évidemment une question de droits humains. On a le droit, non seulement de ne pas être jeté en prison, torturé pour rien, enfin, vous voyez, mais on a aussi le droit de vivre dans un environnement sain, avec une eau de qualité, des aliments de qualité, etc. Donc, je suis une défenseuse des droits humains.
Justement, par rapport à ce qui se passe à l'international, c'est un sujet d'inquiétude. Vous-même dites un peu déprimé hein, par ce qui se produit au niveau de ce recul de l'écologie. Comment envisager dans le court terme ce qui pourrait permettre de tenir face à ce bulldozer qu'est cette...
J'ai raconté ça dans des films aussi, hein, comme... Qu'est-ce qu'on attend ? Sacrée croissance, les moissons du futur. À chaque fois, c'est des livres aussi. Il faut, là où on vit, localement, s'engager dans des initiatives de transition pour montrer qu'on peut faire autrement. Déjà, c'est une bonne chose parce que c'est bon pour le moral. Et on en a besoin en ce moment. De faire des choses concrètes avec d'autres. Puis après, il faut faire en sorte aussi qu'on ait les bons élus. Malheureusement, c'est pas bien parti là, pour prendre les bonnes mesures qui accompagnent cette transition à une autre échelle, c'est-à-dire une échelle nationale et internationale. Voilà.
Ce que vous semblez dire, c'est qu'il est peut-être plus facile d'agir localement, avec des gens environnants, de coopération, puisque c'est aussi le maître mot de ces rencontres. Est-ce que dans tout ce que vous avez eu à produire en documentaire, vous avez ce constat d'ailleurs qu'on agit plus localement que par les voies nationales ou législatives?
On a besoin des deux, hein. On a besoin des deux leviers. On a besoin du niveau local, là où on vit, s'engager là où on vit. Pour mettre cette transition déjà à l'œuvre, on a aussi besoin du niveau national. Pour ce qui concerne le thème de ces journées, la coopération, alors moi je viens de sortir aussi un beau livre qui est là, qui s'appelle « Ces animaux qui nous protègent », qui est vraiment un hommage au monde extraordinaire des animaux, avec des dessins magnifiques. C'était Valentine Plessis qui avait illustré mon film « La fabrique des pandémies », qui vient d'illustrer aussi « Les vies des microbes ». Et on découvre comment dans le monde des animaux... Il y a beaucoup plus de coopération que de compétition. Il y en a parfois de la compétition hein, quand il s'agit de survie, mais beaucoup de coopération, énorme coopération. Et il ne faut pas l'oublier, que nous faisons partie de ce monde animal, en fait, et que si on l'oublie, on est mal barrés, nous les humains. J'invite d'ailleurs à regarder ce beau livre, parce que c'est vraiment un livre à laisser traîner dans un salon vraiment, et y compris que les enfants découvrent ce magnifique monde des animaux. Et comment nous sommes liés à leur destin. Encore une fois, je me répète, mais les animaux entre eux coopèrent beaucoup et ils coopèrent aussi avec les plantes. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et il faut s'inspirer de ça, du vivant, plutôt que de continuer à le détruire.
Le vivant vous inspire d'abord pour écrire ou alors aussi réaliser ou ce sont des choses qui se constituent en parallèle dans le même moment?
Non, je fais toujours. Je commence une enquête et je prépare toujours en même temps le film et le livre. Voilà, toujours.
Et pour cela, vous allez sur le terrain, évidemment. Oui. C'est pour vous primordial. Et est-ce que vous ressentez toujours autant de facilité pour produire un film aujourd'hui?
Non, c'est même assez étonnant. Parce que moi, j'ai eu plus de 40 prix dans ma vie. Et on pourrait se dire, c'est très facile de faire des films pour elle aujourd'hui. Ben non, parce qu'en fait, ça, c'est un autre grand souci. Les télévisions, par exemple, que je connais bien... elles sont dirigées souvent maintenant par des gens qui sont plutôt des commerciaux plutôt que des réalisateurs ou des journalistes. Malheureusement, c'est de plus en plus difficile de faire des films de qualité parce qu'il faut se battre pour avoir les moyens de les faire. Et voilà, ça c'est un réel souci.
Parce que vous travaillez autonome, vous êtes en autonomie ou alors vous avez une petite équipe avec vous?
Ah non, bah, je ne peux pas faire un film comme Vie des microbes toute seule. Hein. Il y a 25 personnes qui travaillent sur un film comme ça. Donc j'ai ma petite maison de production, on fait travailler beaucoup de monde. Voilà. Puis après, il faut trouver plein de partenaires pour financer les films. C'est ce qu'on fait, mais c'est vraiment une bataille. Voilà.
Parce qu'il y a aussi la crise financière qui n'aide pas, au-delà même de ces clivages capitalisme-écologie. Je reviens un peu par rapport au court terme et au long terme. Au court terme, ça semble catastrophique, mais au long terme, est-ce que vous avez plus d'espoir?
Je ne sais pas. En tout cas, ce que je dis toujours, c'est qu'il est trop tard pour être pessimiste.
Pour vous, ça a été l'évidence que le documentaire était plus, efficace que peut-être opéré par des fictions. Vous n'avez jamais composé dans la fiction pour ce genre de combat?
Pour l'instant, non. Pourquoi pas? Voilà. Donc j'ai fait des films pour le cinéma aussi, quand même, des documentaires pour le cinéma, mais ça a toujours été des documentaires.
Oui.
Il n'est pas exclu que j'essaie de faire des fictions, ou des romans d'ailleurs, qui permettent pas que des livres qui sont des essais fondés sur des enquêtes journalistiques, voyez. Peut-être qu'au final on a une plus grande liberté, c'est pas exclu, voilà.
Et par rapport aux médias ou les services de manière à vous connaître, à part la chaîne YouTube, est-ce que vous avez un site internet ou
Moi j'ai tout ça, vous savez, Facebook, j'ai tous les médias, j'ai un site internet pour M2R Film, j'ai un site internet pour Marie-Monique Robin, j'ai une chaîne YouTube, enfin bon, voilà. J'essaye de faire connaître mes travaux le plus possible, parce que c'est pour ça que je les fais, c'est pour qu'ils servent. Donc voilà.
Est-ce que vous avez dans l'idée de traiter justement ce qui se passe aujourd'hui internationalement avec cette répression de l'écologie ou... Est-ce que ça c'est un travail plus sur la politique que plutôt sur...
Non, pour l'instant j'ai pas de projet là-dessus, mais je prends position régulièrement sur les médias, sur les réseaux sociaux par rapport à toutes ces questions, bien sûr. Mais voilà, c'est sous forme de poste, vous voyez, voilà.
Marie-Monique Robin, merci beaucoup d'être venue sur Air du Bois pour nous parler un peu de ce film Vive les microbes. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Olivier Armand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et vous venez d'exposer une conférence titrée « La troisième voie du vivant ». Alors, il y a cette question, effectivement, c'est une question. Et les deux premières voies, quelles sont-elles ?
Alors, la première voie, ce serait peut-être celle du développement durable, ou peut-être même du techno-solutionnisme. Donc on reste dans le monde de la performance, on essaie de régler les problèmes avec des solutions techniques très performantes. Donc là, on est arrivé au bout de ça. La deuxième voie, ce serait peut-être la voie du ralentissement, de la sobriété, de la décroissance. Alors nettement plus réjouissante, j'ai envie de dire, parce que ça s'aligne mieux avec le monde qui vient, le monde de fluctuant. Mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'au cours des années précédentes, ça n'a pas mobilisé au-delà d'un certain cercle. Donc comment on fait pour que ça grandisse ? La troisième voie du vivant, en fait, c'est une autre voie qui est basée sur le monde fluctuant et qui va vers la robustesse et qui génère de la sobriété. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est une troisième voie.
Alors, cette conférence était l'introduction d'opposer la performance et la robustesse. Pour cela, vous avez défini ce que sont l'un et l'autre. On peut peut-être les rappeler pour les auditeurs.
Alors, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc, quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Et la robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Ou maintenir le système viable malgré les fluctuations. Voilà, donc, c'est deux choses très différentes.
La robustesse, votre exposé semble inapproprié à toute approche technique ou du moins exploitable.
Alors en fait, le monde de la robustesse est tout à fait compatible avec la technique. Par contre, c'est plutôt du low-tech, c'est plutôt du réparable, c'est basé sur de la diversité. L'agroécologie, par exemple, c'est un ensemble de techniques, de savoir-faire, mais très hétérogène, très situé. Et ça, c'est robuste parce que ça ne dépend pas d'une technocratie distante. Mais par contre, ça dépend de savoir-faire locaux. Et donc, c'est bien technophile, hein, quelque part. Ce n'est pas contre la technique.
Et effectivement, vous exposiez donc cette performance qui se nourrit de tout, qui absorbe tout et qui ne rend rien, en somme.
C'est ça, c'est extractiviste et en fait c'est plutôt parasitaire. Alors c'est vraiment la partie négative du parasite, c'est que ça ne fait que épuiser les ressources pour continuer à exister. Tant que les ressources sont là et qu'elles sont abondantes, à la limite, pourquoi pas, hein ? Enfin, d'un point de vue un peu cynique, pourquoi pas ? Sauf que là, on n'est plus du tout dans ce monde-là.
Et puis, en fait, ça se révèle être une politique de très court terme.
Absolument, c'est éphémère.
Et voilà, et donc la robustesse, c'est un travail sur lequel vous avez beaucoup exercé. Vous avez une équipe autour de vous pour...
Oui, alors...
Alors comment s'échelonnent justement ces différentes facettes ?
Alors en fait, il y a plein d'équipes hein, qui travaillent là-dessus. Alors dans mon équipe, nous, on travaille vraiment sur le développement des plantes et on se pose la question de la robustesse des plantes, comment les plantes arrivent à faire des fleurs qui ont la même forme malgré les fluctuations de l'environnement. Et en fait, c'est souvent des équipes interdisciplinaires qui font appel à des biologistes, des physiciens, des modélisateurs informatiques, mais parfois aussi des philosophes, etc. Donc en fait, on a des projets qui d'ailleurs ont des philosophes, donc c'est assez large. Mais il y a d'autres équipes, alors qui sont pas, où je ne suis pas impliqué, mais qui travaillent aussi sur la robustesse dans d'autres systèmes, pour l'immunité par exemple, ou pour faire des avions, même au-delà du vivant. Et en fait, c'est une question toute simple. Dès qu'on rentre dans le monde fluctuant, il faut développer des systèmes robustes. Et donc, les systèmes vivants, c'est l'exemple typique d'objets, de systèmes, d'êtres qui sont robustes dans le monde fluctuant.
Et justement, vous avez abordé cet aspect de la photosynthèse avec les végétaux. Sa faible performance ou sa rentabilité très faible en fonction de ce qu'elle absorbe en énergie. Mais en même temps, ça permet justement de se parer aux fluctuations.
Exactement, exactement. En fait, si on devait le dire un peu en langage économique, nous, les sociétés humaines, on essaie de trouver le rendement maximal. Les plantes essayent d'avoir le rendement le plus stable. Et bien, il se trouve que c'est 1%. Parce qu'avec 1% de rendement énergétique, les plantes sont capables de gérer du grand froid, un grand rayon lumineux, fait des grandes fluctuations environnementales. Et c'est ça qui a été sélectionné pour l'évolution, la robustesse avant la performance.
Un peu de science-fiction, vous parliez donc de cette captation par le rouge et le bleu. Est-ce qu'il y a des études scientifiques sur ce domaine de cette accaparation lumineuse?
Oui, alors il y a des chercheurs qui sont, j'ai envie de dire, un peu encore addicts à la performance, qui veulent optimiser la photosynthèse. Et donc, ils vont faire des plantes qui augmentent le rendement de la photosynthèse, de façon génétique, hein, avec des OGM et tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est que la première année, ces plantes-là augmentent leur rendement. Donc, elles font des feuilles plus grandes, elles font plus de biomasse. Mais ce dont on se rend compte, c'est que l'année suivante, soit elles se débarrassent du transgène, en fait, elles l'enlèvent, soit si elles le gardent, alors elles sont très malades. Parce qu'en fait, elles se sont épuisées. Et surtout, s'il y a une fluctuation, s'il y a un virus, elles vont être beaucoup moins résistantes au virus. Et donc, de nouveau, les fluctuations, ça ne pardonne pas. Hein.
Il y a beaucoup d'expériences comme ça, de l'ordre de l'apprenti sorcier, qui permettent de mettre en évidence les faisabilités ou non.
Oui, alors dans les laboratoires, dans les laboratoires, on fait des expériences. En fait, on pousse le vivant un peu au-delà de ses bornes, mais c'est dans des conditions contrôlées. Donc, du coup, ça nous permet de voir jusqu'où pourrait aller le vivant. Et en fait, on voit qu'à chaque fois, ça plante. Hein, si on veut le mettre trop performant, c'est ça le problème des très grands rendements. Quand on voit la domestication des animaux ou des plantes qui s'est fait pendant des milliers d'années, il faut penser au chihuahua par exemple. Un chihuahua, c'était un loup hein, quand même à l'origine. Bon, si un chihuahua, on le laisse tout seul dans la forêt. Je lui donne pas quelques heures avant qu'il se fasse choper. Il va pas résister. C'est tellement domestiqué que ça devient très fragile.
Et il y a aussi ces fluctuations climatiques qui amènent des catastrophes, met à mal aussi la biodiversité. Est-ce qu'il y a un travail aussi sur cet aspect de ce bouleversement climatique et de recherche d'adaptation de plantes?
Ouais. Exactement. Alors en fait, ce qui est absolument extraordinaire avec la biodiversité, c'est que c'est le levier le plus systémique pour répondre à tous les aspects de la crise socio-écologique. La pénurie de ressources, la crise climatique, donc évidemment l'effondrement de la biodiversité et les pollutions globales. Avec la biodiversité, on peut dépolluer les sols, on peut stocker du carbone, on peut rendre les côtes moins sensibles aux crues, aux submersions marines, etc. Donc en fait, c'est par la biodiversité que non seulement on se reconnecte au vivant, parce que c'est de la biodiversité, mais en plus, on crée les conditions dans lesquelles les solutions émergent. Ça, c'est beaucoup plus joyeux et plus intéressant, finalement.
Il y a cette approche de la robustesse qui induit, en somme, un ralentissement de l'activité terrestre ou tout simplement de la nature. Est-ce que c'est aussi une pédagogie à faire découvrir, à amener aussi à un public et puis aux décideurs?
Alors c'est vrai que le ralentissement comme ça, en général, c'est pas très sexy, hein, surtout dans un monde qui est drogué à la performance. Alors en fait, on peut prendre ça sous un autre angle. On peut se dire en fait que quand on est très rapide, on interagit avec personne. Parce que c'est le monde de l'autoroute, hein. On va très vite à destination, mais on n'a rencontré personne sur la route. Si on veut rencontrer plus de monde, si on veut multiplier les interactions, et ben pour le faire, il faut ralentir. Et donc en fait, le ralentissement, c'est juste un moyen pour interagir plus. Et donc vu comme ça, là, je pense que ça peut devenir plus sexy de ralentir.
Est-ce qu'il y a une certaine sérénité au sein de l'INRAE par rapport à l'évolution politique internationale et même en France sur cette attaque contre l'écologie?
Oui, alors à l'INRAE, en fait, c'est un institut qui quand même a vraiment basculé vers l'agroécologie, donc est beaucoup plus au courant de toutes ces questions-là qu'il y a 50 ans. Hein, donc ça a quand même beaucoup évolué. Et donc il y a beaucoup de réflexions dans les laboratoires pour se dire, mais en fait, là, il faut vraiment qu'on réoriente la recherche. Et en fait, nous, on est un peu les têtes de pont, hein, quelque part. Enfin, on est des têtes de pont. On va certainement définir certains axes pour l'agriculture française, européenne, mondiale. Et donc il y a une vraie question à avoir. Et donc c'est vrai que, enfin, moi, personnellement, ça... Ce qui m'inquiète, c'est les ultra-performants qui pourraient, à court terme, attirer beaucoup de monde, mais qui vont se planter. Et donc, c'est notre rôle dans le service public de servir de garde-fou et de proposer un projet nettement plus désirable. Le projet robuste, à mon avis, il est nettement plus désirable que le projet de l'agriculture de précision, par exemple.
Pour porter cette parole et ces connaissances, quels sont vos accès actuellement? Il y a les groupes médiatiques, j'imagine, mais je ne pense pas que les portes soient grandes ouvertes.
Non. Je confirme. Donc en fait, je fais un petit peu le tour des écoles d'ingénieurs, de certaines collectivités territoriales, des entreprises aussi. Donc en fait, c'est souvent des secteurs qui sont déjà un peu dedans et qui veulent se renforcer, s'ouvrir à d'autres sujets, etc. Par exemple, on ne m'invite pas au MEDEF, on ne m'invite pas dans d'autres cercles où finalement, là, ce n'est pas du tout la doxa performante écrase tout. Quoi. Donc là, oui. Et donc, alors, ma tactique... c'est pas que moi je parle, mais si je forme des entrepreneurs par exemple à la robustesse, eux par contre s'ils en parlent, là ils vont être invités. Au niveau politique aussi, au niveau national. C'est que au niveau national, les chercheurs ne sont pas écoutés. Hein. Enfin, ça, on le voit bien. Hein. Mais par contre, les entrepreneurs, les grandes entreprises, le monde socio-économique, lui, il est écouté. Et donc, du coup, il faut mieux leur parler à eux. C'est un billard à trois bandes. Hein. Si eux sont convaincus, alors là, ça peut avoir un effet.
Et pour cela, il y a un certain optimisme. Vous semble-t-il possible que des oreilles de ces entreprises, de décideurs, d'entrepreneurs même...
Oui, ça vient. Oui. Ça vient. En fait, moi, j'en vois de plus en plus. Hein. En fait, c'est parce que tout simplement, ils voient de plus en plus de fluctuations. Il y a 6 ans, avant le Covid, les entreprises voyaient des fluctuations, mais ce n'était pas du tout la même échelle. Là, non seulement c'est plus fluctuant, plus grave, plus intense, mais c'est plus fréquent. Ça n'arrête pas, en fait. Hein. Après le Covid, il y a eu l'Ukraine, l'énergie, l'inflation. Enfin, ça n'arrête pas. Et là, voilà, on va avoir Trump, Musk et compagnie, les douanes, etc. En fait, je veux dire, ça n'arrête pas. Donc les entrepreneurs, surtout les petits entrepreneurs, en fait, voient bien que ça fluctue de partout et qu'il faut, que leur modèle, en fait, est périmé. Donc là, ça répond pas mal.
Il y a cette notion de mondialisation aussi qui ne facilite pas cette tâche. Mais est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à cette localisation qui serait plus performante, plus adaptée à des territoires en fonction de ses productions et de ses demandes?
Oui, bien sûr. Alors, la question de la relocalisation des activités, ça, c'est essentiel. En fait, c'est incroyable que 60% des principes actifs de nos médicaments soient fabriqués en Chine et en Inde. Enfin, si on doit faire des anesthésies en Europe et qu'on n'a pas de production locale d'anesthésiant, enfin, faut quand même réfléchir à ce que ça veut dire. Donc on est en train, enfin, de relocaliser. Alors, à vrai dire, les États-Unis sont plutôt en avance sur nous, hein, sur le coup, là. Les États-Unis ont beaucoup plus relocalisé que l'Europe. Mais c'est la dynamique générale. Et chaque crise va nous aider à relocaliser. Quand le canal de Suez est bloqué, quand le canal de Panama sera bloqué, quand Internet va planter, on va relocaliser à fond. Hein. Et donc, alors, ça dépend d'une décision politique, mais aussi des entreprises de prendre les devants, d'anticiper ce monde-là relocalisé.
Les super performeurs dont on nous rabâche à longueur de journée leurs exploits, hein, entre guillemets, quelle est leur robustesse?
Alors, leur robustesse, c'est qu'ils ont un gros matelas financier. Donc, ils ont des stocks. C'est marrant parce que d'ailleurs, c'est dans le monde de la performance, hein, on prêche le zéro stock, le flux tendu. Hein, voilà. Ça, c'est l'optimisation, etc. Bon, eux, en fait, alors, ils font de la performance tout le temps, mais il y a un truc qu'ils ont, c'est une énorme épargne. Les 185 milliards de Jeff Bezos, par exemple. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Bah, ça, en fait, c'est leur robustesse, quelque part. C'est qu'ils ont un énorme sac d'argent. Par contre, c'est extrêmement fragile. Tout leur système peut s'effondrer du jour au lendemain. Bah, on a vu DeepSeek, là, qui est sorti, là, une intelligence artificielle chinoise. Nvidia a perdu 600 milliards en une journée. Hein. Donc, c'est très, très, très fragile. Donc,
oui,
ça peut dévisser. Quoi.
Effectivement, la Chine a proposé son intelligence artificielle, DeepSeek, ouais. Qui a secoué le monde numérique américain. Ouais. Et donc, ça, c'est aussi des possibilités d'émergence à venir pour d'autres types.
Exactement. Le système performant est en train, il est tellement dans la compétition qu'il est en train de s'autodétruire, il est en train de se nécroser de l'intérieur. Donc en fait, il faut l'accélérer, hein, évidemment, mais le monde de la coopération arrive.
Eh bien, je rappelle aux auditeurs, vous avez rédigé donc un livre qui s'intitule La Troisième Voie, mais vous avez rédigé également d'autres livres sur ces recherches. Et eh bien, écoutez, Olivier Hamant, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Merci.